18h13 en direct sur France Culture. On commence par cette actualité confirmée au journal Le Monde ce week-end, la possible entrée de Nicolas Sarkozy au conseil de surveillance du groupe Lagardère.
Oui, alors vraisemblablement cette entrée, elle est plus ou moins confirmée. On évoque même l'idée que Nicolas Sarkozy puisse potentiellement prendre la présidence de ce conseil de surveillance du groupe Lagardère. Donc le groupe Lagardère, c'est le sport, les voyages, l'édition et la presse, les titres de presse du groupe Lagardère. C'est donc le JDD, le journal du dimanche, Europe 1 et Paris Match. Alors, à quoi correspond cette entrée de Nicolas Sarkozy dans ce conseil de surveillance? Eh bien, c'est une volonté évidemment d'Arnaud Lagardère. C'est un geste qui permettrait à l'héritier de conserver le système juridique dit de commandite. C'est un peu technique, mais c'est intéressant. C'est un système qui verrouille le pouvoir au profit d'Arnaud Lagardère en dépit du fait qu'il ne possède que 8% des actions du groupe. Un système qui est systématiquement, très régulièrement ces dernières années, décrié par les autres actionnaires de ce groupe, puisqu'il permet à Arnaud Lagardère de s'enrichir quels que soient les problèmes de gestion du groupe. Or, ce groupe, il a beaucoup de problèmes de gestion. Il y a quasiment 10 ans, enfin au moment de la mort de Jean-Luc, le père Lagardère, le groupe valait 10 milliards d'euros. Il n'en vaut que 2 milliards. 4 a priori aujourd'hui. Arnaud Lagardère a déjà cédé le groupe Elle, le magazine, au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qu'on retrouve au Monde aussi, ses parts dans Airbus. Et puis, le 20 février dernier, on a eu l'officialisation de la vente des 75% de Lagardère Sport pour près de 80 millions d'euros, une branche dans laquelle Arnaud Lagardère avait lui investi 1 milliard. Donc clairement, on est sur une forme d'échec pour Arnaud Lagardère. Alors pourquoi est-ce qu'il fait entrer donc son ami, celui qu'il surnomme aussi son frère, Nicolas Sarkozy, à ce conseil de surveillance? Eh bien, parce qu'au capital de ce fameux groupe, il y a Arnaud Lagardère, 8% uniquement, et le fonds Amber. C'est un fonds américain extrêmement agressif, extrêmement critique face à Arnaud Lagardère et à sa gestion du groupe. Mais il y a aussi le fonds souverain du Qatar, qui est l'actionnaire principal du groupe. Et on connaît les bonnes relations de Nicolas Sarkozy avec les Qataris. Il y a aussi le Crédit Agricole, dont le principal dirigeant aujourd'hui n'est autre que Xavier Muscat. Xavier Muscat, c'était l'ancien secrétaire général à l'Élysée de Nicolas Sarkozy. Donc en fait, le but pour Arnaud Lagardère, c'est de convaincre et les Qataris et le Crédit Agricole de ne pas l'abandonner face au groupe Amber. Alors évidemment, cette entrée de l'ancien président au conseil de surveillance du groupe peut clairement inquiéter les trois titres de presse. Ils sont déjà relativement fragiles. En tout cas, le JDD, Europe 1, Paris Match. Pourquoi? Parce que même si Nicolas Sarkozy n'est plus officiellement actif en politique, quoique certains épisodes par le passé ont semblé montrer qu'il était capable d'ingérence dans les lignes éditoriales du Monde. Je vous rappelle qu'en 2005, Paris Match avait publié en couverture une photo de Cécilia Sarkozy en compagnie de son amant, qui est depuis devenu son mari, Richard Attias, et que Alain Genestard, le directeur du magazine, avait refusé de mettre la direction du groupe au courant. Un crime clairement de lèse-majesté pour Nicolas Sarkozy.
Qui avait coûté son poste à Alain Genestard,
qui pourtant travaillait, enfin qui avait, on va dire, clairement hissé Paris Match au niveau où il était, qu'il dirigeait depuis plus de 15 ans à cette époque-là. Et puis quelques jours plus tard, on avait les journalistes du JDD qui avaient découvert que Cécilia Sarkozy n'avait pas voté au second tour, qu'elle n'avait pas signé la liste d'émargement dans le bureau dans lequel elle était inscrite. Et donc cet article avait été rédigé, il avait été mis en page et puis finalement il avait été censuré, il n'était pas passé dans ces pages. Cette information était sortie dans Rue 89 et évidemment ça avait fait énormément de bruit, d'autant que quelques semaines plus tard, Le Canard Enchaîné avait révélé que Jean-Pierre Elkabbach, le patron d'Europe 1 à l'époque, qui est toujours dans le groupe Lagardère, avait consulté le candidat Nicolas Sarkozy avant de recruter un journaliste politique qui devait couvrir l'UMP. Voilà, alors tout ça c'était du temps où Nicolas Sarkozy était encore, comme on dit communément, aux affaires. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va véritablement prendre la présidence de ce conseil de surveillance? Ça peut être un signe extrêmement fort, relativement inquiétant. En tout cas, ce n'est clairement pas non plus un bon signal pour les titres de presse et l'activité de presse de Lagardère, qui semble de plus en plus fragile.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Et puis, Zoé se fait toujours dans l'actualité, en tout cas l'actualité des livres, un ouvrage qui paraît dans les jours à venir.
Oui, un ouvrage « Disparaître dans la nature » qui paraît aux éditions Marcali. Alors, on a évoqué ces dernières semaines ici dans cette émission le livre de Olivier Tesquet, « Vie privée », qui est un essai qui essaie de comprendre comment finalement nos traces numériques se multiplient et comment le capitalisme qui se fonde dessus est peut-être souvent trop difficile pour nous à contrôler et à regarder. On peut se réjouir dire, donc de la parution aux excellentes éditions Marcali, qui avait publié notamment les livres de Jay Adelstein, J'ai acheté ma vie en Bitcoin. Eh bien, de ce livre, alors c'est un livre imprimé en recto et en verso, on a donc deux récits des deux côtés. Le principal morceau de choix de ce livre, c'est la traduction d'un article, en tout cas d'une expérience menée en 2009 par un journaliste américain, Evan Radcliffe. Il est spécialisé dans la question des nouvelles technologies, il travaille pour The Wired, magazine mythique du groupe Condé Nast. Il se penche un peu sur le cas de ces 200 000 Américains majeurs qui disparaissent chaque année dans la nature et dont une étude prouve qu'en réalité ils sont près des deux tiers à avoir organisé leur disparition. Alors, deux questions se posent, évidemment, pourquoi le font-ils? Les explications sont souvent différentes, mais surtout, et il se pose la question en 2009, Evan Radcliffe, avec les nouvelles technologies, la manière dont nous vivons, est-ce qu'il est encore possible de disparaître dans la nature? Est-ce qu'on peut vivre sans laisser de traces? Et puis en creux se pose une autre question, quand on y renonce, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qu'est notre vie privée, notre intimité? Alors Evan Radcliffe, qu'a-t-il fait? Il a annoncé dans Wired qu'il allait disparaître le 15 août 2009. Et il mettait au défi les lecteurs du magazine de le retrouver. Ils avaient un mois pour le retrouver. S'il réussissait à donc l'identifier, à se prendre en photo à côté de lui avant le 15 septembre 2009, ils empochaient 5000 euros. S'il réussissait à passer les mailles du filet, c'était lui qui empochait ces fameux 5000 euros. Très vite, il y a une communauté de chasseurs qui se met en place et qui ligue ses forces, qui s'entraide, qui lance des bonnes pistes, des fausses pistes, notamment pour contre les autres chasseurs, mais aussi contre Radcliffe, parce qu'on se doute bien que lui suit sa propre traque. Voilà, ça va du gentil petit hacker au lycéen perdu de 16 ans, à un ancien détective privé et à un informaticien. C'est un personnage passionnant. Alors en fait, cet article, il est assez génial parce qu'il raconte, d'une part, les précautions technologique que doit prendre Radcliffe. On est encore en 2009, puisqu'évidemment, il est facile de le pister par son ordinateur, par son adresse IP. Donc, il utilise évidemment Tor, puis différents logiciels, parce qu'il se rend compte que le niveau de ses adversaires est bien plus élevé que ce qu'il pensait. Par ses cartes bleues, Radcliffe identifie les quelques marques, les quelques compagnies aériennes qui permettent encore de payer en cash, ou en tout cas avec des chèques cadeaux. Elles sont relativement peu nombreuses là aussi. Et comment est-ce qu'on peut faire pour vivre, a fortiori, voyager sans laisser de traces? On se rend compte que c'est pas impossible, mais très très difficile. A contrario, enquêter sur la personnalité de quelqu'un relève d'un jeu d'enfant, puisque très vite, tous les gens qui traquent Radcliffe se débrouillent pour tout savoir de lui. Il déniche ses plus vieilles photos, les noms de ses petits amis, ses connaissances, ses passions, notamment sur le football américain. Il mise sur une chose, en fait, ce qui constitue son identité, son intimité, va nécessairement finir par le trahir. Un homme ne peut pas vivre seul et Radcliffe, même déguisé, même traqué, même méconnaissable, il tentera un jour ou l'autre sous sa nouvelle identité de se faire des amis ou en tout cas d'aller dans des endroits qui normalement l'intéressent et c'est ça qu'il trahira. Évidemment, je ne vais pas vous livrer la fin de cette enquête, puisqu'il faudra que vous achetiez le livre, mais c'est une réflexion assez passionnante sur ce qui constitue notre identité, ce qu'on dit de nous, tout simplement en achetant un sandwich ou en publiant une photo sur un réseau social. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la solitude de l'aventure et en même temps la sensation que le reste du monde sait tout de lui terrorise presque autant Radcliffe que la perspective potentielle de son échec. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cet article, il date de 2009. C'est il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, c'est une éternité, on va dire,
à l'échelle du numérique.
Et franchement, on se demande si une telle expérience serait encore possible aujourd'hui.